Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, aujourd'hui nous recevons Bertrand Vergely, professeur de philosophie, pour parler de son livre « La tentation de l'homme-dieu » paru en 2015 aux éditions Le Passeur. Bertrand Vergely, dans votre ouvrage, vous dressez un portrait noir de l'homme-dieu que vous qualifiez dans votre introduction de « faux ami de l'homme ». Qu'en est-il au fait ?
Pour bien comprendre le transhumanisme, il convient de revenir à sa définition. Cette définition, elle a été donnée par Jean-Paul Bacquia dans son livre « Pour un matérialisme fort ». C'est la suivante. Le transhumanisme est un mouvement né dans les années 60 aux États-Unis qui rassemble des chercheurs de toutes les disciplines afin de fabriquer, grâce à l'hybridation entre l'homme et la machine, un homme qui sera des milliards de fois plus intelligent que l'homme que nous connaissons. Et grâce à cette puissance, il pourra mettre fin à la mort, à la pauvreté et aux inégalités.
Excusez-moi, c'est ce que vous appelez l'homme-dieu ?
C'est ce qu'on appelle le projet transhumaniste. Et là-dessus, Kurzweil, qui est l'un des ingénieurs en chef de Google, a dit la chose suivante. Jusqu'à présent, on a connu deux religions. La première, c'est le polythéisme. La deuxième, c'est le monothéisme. La troisième religion arrive, c'est la religion de l'homme-dieu. Et le but du transhumanisme, c'est de mettre en place un homme tout-puissant. Voilà. C'est ça. Le problème, grâce à la technique. Alors, il faut voir ici comment se situer face à cette question. Alors, face à cette question, je crois qu'il importe d'éviter les confusions. D'une part, entre la technique que nous utilisons sur un plan quotidien avec le problème que pose la technique. La technique sur un plan de la vie quotidienne, ce sont des moyens qui permettent de réaliser des buts et en particulier des moyens techniques permettent d'améliorer la vie quotidienne en se libérant de la tutelle de la matière ou de la nature. Deuxième point, la technique, c'est aussi une certaine manière de faire et d'agir qui permet de faciliter les moyens que l'on utilise. Et donc, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que utiliser des moyens au but d'une fin et puis essayer d'améliorer ces moyens en leur donnant une certaine art n'est pas un problème en soi et c'est ce qui fait dire à certains que la technique est neutre. Mais d'un autre côté, il faut voir, la technique n'est pas simplement un moyen et un art d'avoir des moyens, c'est aussi une philosophie. Et cette philosophie de la technique, elle a été très bien décrite par Bergson et par Heidegger. Qu'est-ce que dit Bergson à propos de la technique ? Derrière la technique, il y a un homme qui cherche à se représenter le monde pour le maîtriser et qui cherche à plier la réalité à la représentation qu'il s'est donnée. Et donc, c'est ça que pose le problème de la technique. Le problème de la technique, c'est l'homme derrière. Et l'homme derrière, ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle un tyran qui asservit le monde en le faisant servir à sa toute-puissance. Et on retrouve cette idée développée par Heidegger lorsque Heidegger dit « Attention, une chose est le fait de collaborer avec la nature pour pouvoir se servir des forces de la nature et les détourner pacifiquement à son profit. Et une autre est la technique moderne qui ne vise plus à collaborer avec la nature pour pouvoir en tirer un bénéfice, mais à exploiter au maximum celle-ci pour pouvoir dégager de celle-ci une surpuissance. » Et donc, c'est là qu'intervient à un moment le problème de la technique moderne et du transhumanisme. À la fin de la Renaissance, et ceci est visible chez Descartes, l'homme occidental ne s'intéresse plus à la vie, il s'intéresse au pouvoir sur la vie. Ceci est visible dans le fait qu'à un moment, Descartes considère que percevoir, c'est juger. C'est-à-dire, ce qui fait que je sens quelque chose ne vient pas du fait que je la sens et que je la reçois par une intuition, mais de ce que je suis capable de juger ce que je sens et par là même de maîtriser ce qui existe. Revenons au problème principal qui est le problème du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quoi ? C'est un projet tout à fait nouveau qui va bien au-delà de la technique, bien au-delà du pouvoir de l'homme sur la réalité, c'est un projet proprement métaphysique, visant à dire les grandes questions que l'homme se pose jusqu'à présent, il a eu une solution à celle-ci par la morale, la religion, la vie spirituelle. Maintenant, nous allons résoudre ce problème techniquement. Par exemple, si nous prenons la question de la mort, il y a deux manières de penser la mort. Je peux penser la mort philosophiquement ou je peux penser la mort techniquement. Penser la mort philosophiquement, c'est trouver une attitude intérieure avec une sagesse, avec une foi pour pouvoir aborder cette question. Quelle est la nouveauté du projet transhumanisme ? Ça consiste à dire nous allons faire mieux que le passé, c'est-à-dire essayer d'aider les hommes à avoir une éthique et une attitude face à la mort, nous allons supprimer la mort parce que nous allons donner à l'homme un corps qui ne mourra pas et qui permettra ainsi de résoudre le problème. Ça me fait penser, si vous voulez, à un projet que l'on trouve chez Marx, où Marx dit « Lorsque le socialisme sera réalisé, il n'y aura plus besoin de religion parce que le socialisme sera la religion ». Eh bien, nous avons ici affaire à la même utopie. Lorsque le transhumanisme sera réalisé, il n'y aura plus besoin de traiter la question de la mort parce que la technique aura résolu cette question.
Excusez-moi, il y a quand même une objection, je dirais, à ça. C'est que le transhumanisme peut aider des gens qui sont malades. Il y a un organe qui est malade, on peut le remplacer, on peut le...
Oui, mais le problème est le suivant. C'est la différence qu'il peut y avoir entre le fait d'aider quelqu'un qui est malade et d'autre part de remplacer l'homme. Le projet du transhumanisme, c'est de dire, pour l'instant, on aidait les gens qui sont malades, mais nous, nous allons faire mieux que cela, nous allons supprimer carrément la maladie. Comme ça, il n'y aura même plus besoin d'aider les hommes. Donc, effectivement, quelque part, le projet est assez judicieux en disant, écoutez, au lieu de s'adapter à la mort, supprimons la mort. Au lieu de s'adapter à la maladie, supprimons la maladie. Et là, nous sommes partis dans le projet transhumaniste. Alors, quel est le problème de cette vision des choses ? Le problème de cette vision des choses, c'est que c'est un problème qui est totalement, c'est une vision des choses qui est totalement déséquilibrée. Je prends un exemple. Pour jouer du piano, il faut trois éléments. Il faut une technique, il faut de l'émotion, et il faut la rencontre entre l'émotion et la technique. La technique, elle est matérielle. L'émotion, elle est humaine. La rencontre entre les deux, elle est divine. Et c'est l'ensemble qui donne ce miracle qu'est l'exécution parfaite d'un morceau de piano qui, techniquement, est irréprochable, humainement extraordinairement sensible, et puis, il y a quelque chose de divin qui intervient dans la musique et qui donne son caractère miraculeux. Le transhumanisme me fait penser à quelqu'un qui voudrait pouvoir résoudre la question, faire du piano uniquement avec la technique. Ou encore, en singeant les émotions humaines, rajouter techniquement un peu d'émotion humaine à la technique, en espérant pouvoir produire le miracle. Quel est le problème général du transhumanisme ? C'est que le transhumanisme n'a pas compris une chose majeure dans l'expérience humaine. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le pouvoir et il y a un temps pour le non-pouvoir. Il y a un temps pour l'homme et il y a un temps pour quelque chose qui dépasse l'homme. Si à un moment, on n'invite pas à la table de l'existence ce qui dépasse l'homme, eh bien, rien ne peut marcher. Si vous voulez, pour que des roues puissent rouler, il faut les visser, mais il ne faut pas trop les visser, il faut laisser un peu de jeu, parce que autrement, eh bien, elles ne peuvent pas rouler. Bien, si vous voulez, la technique me fait penser ici à quelqu'un qui oublierait totalement la question du vide, de l'autre, de la part de l'imprévisible qui permet à tout de jouer. Et c'est ça, c'est là que se pose la question du problème de fond. Alors si on va encore plus loin, qu'est-ce qu'il y a derrière le projet transhumanisme? Derrière le projet transhumanisme, on a affaire à une naïveté métaphysique absolument stupéfiante. Ce projet repose sur l'idée suivante, tout le monde veut le bonheur. Le bonheur, c'est le plaisir continuel, et le plaisir continuel, c'est l'absence totale d'obstacles. Cette vision du bonheur est une vision totalement infantile, qui consiste à dire que être heureux, être libre, c'est pouvoir faire ce que l'on veut, c'est-à-dire pouvoir satisfaire tous ses fantasmes. C'est la vision de ce qu'on peut appeler l'homme ludique. Et la caractéristique du transhumanisme, c'est que le transhumaniste n'a absolument rien compris au bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas délivré de ce qu'on appelle l'angoisse de la mort. C'est-à-dire que le transhumanisme veut supprimer la mort et dit « nous allons supprimer la mort et nous allons ainsi résoudre la question de la mort ». Résoudre la question de la mort, c'est pas supprimer la mort, c'est supprimer l'angoisse de la mort. Et quand je suis dans une logique qui est la logique de la suppression de la mort, je suis dans l'angoisse de la mort. La caractéristique de l'homme qui se libère de la mort, c'est pas quelqu'un qui supprime la mort, mais c'est quelqu'un qui est capable de tout vivre, y compris la mort, y compris l'angoisse de la mort. Et là, on ne veut pas nous permettre de tout vivre, y compris la mort, y compris l'angoisse de la mort. On veut supprimer la mort et l'angoisse de la mort, ce qui est le comble de la mort et de l'angoisse de la mort.
Écoutez, nous allons faire une pause maintenant pour aller au paradis, là où l'angoisse de la mort est bien sûr absente. Et ce sont les hymnes du paradis du compositeur anglais John Tavener, qui est orthodoxe lui-même. Et cet extrait est donc interprété par le chœur de la cathédrale de Winchester, dirigé par David Hill. Hymne du paradis de John Tavener par le chœur de la cathédrale de Winchester dirigé par David Hill. Nous revenons à notre entretien avec Bertrand Vergely sur la tentation de l'homme-dieu. Vous avez parlé de l'angoisse de la mort et maintenant on en arrive au Christ. Hein, et nous chantons à l'église, il a vaincu la mort par la mort. Alors là il est question de mort de foi, je dirais même. On veut effacer la mort par la mort.
Alors il faut bien comprendre ce que veut dire la mort et la résurrection. Dans la vision transhumaniste de la fin de la mort, dans la vision transhumaniste de l'homme-dieu, nous avons affaire à une vision particulièrement naïve et de l'homme-dieu et de la fin de la mort, qui ne permet pas à l'homme de se déifier et qui ne lui permet pas de supprimer la mort. Pourquoi ? Parce que tout part de ce qu'on pourrait appeler l'homme non purifié. Qu'est-ce que c'est que l'homme non purifié ? C'est l'homme totalement infantile qui est terrorisé par la vie et la mort et qui se rassure avec des rêves de toute puissance sur lui-même et sur la mort. C'est le rêve de quelqu'un qui dit « L'idéal serait que je puisse être tout puissant, faire ce que je veux comme un monarque tyrannique et que la mort n'existe plus. » Quand quelqu'un vit dans cette attitude mentale, il n'a pas supprimé la mort et l'angoisse de la mort. Il vit hanté par cette idée. Pourquoi ? Parce que l'homme libre ne supprime rien. Il traverse tout, il passe à travers tout. Et c'est ce que déjà disait la sagesse de l'Antiquité. La sagesse de l'Antiquité, c'était que le sage est capable de tout affronter, la mort et la vie, et il n'est pas celui qui supprime la mort, mais celui qui est capable de la traverser. Premier point donc, attention, ça permet de comprendre une chose, le Christ a tout vécu, la vie et la mort, et il n'est pas éviter la mort, et le but c'est pas simplement d'éviter la mort. Le deuxième point, c'est de comprendre ici ce que veut dire l'homme-Dieu. Dans le christianisme, il n'est pas du tout sacrilège de penser que l'homme est fait pour la déification, c'est même le cœur de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la déification? C'est que l'homme puisse vivre la plénitude et connaître Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la connaissance de Dieu? C'est la joie infinie qu'il y a de découvrir l'énormité, l'immensité de la vie divine. Ça n'est pas du tout d'avoir un corps perpétuel pour pouvoir faire ce que l'on veut. Ayons un corps perpétuel sans vivre la vie divine avec tout ce qu'elle peut apporter, on ne sera pas dans l'homme déifié, on sera dans l'enfer d'un homme s'ennuyant en ayant un corps perpétuel. Donc ne confondons pas corps perpétuel et vie éternelle. La vie éternelle est une vie d'une beauté qu'on n'a pas imagination et qui fait que on est dans une éternité de vie et pas simplement dans une perpétuité du corps. Donc ça me paraît très très important et ça permet de comprendre quoi? Dans le christianisme, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, il n'y a qu'une seule mort, c'est d'être coupé de Dieu. C'est de ne pas pouvoir vivre la vie divine. Ça veut dire que si je suis vivant, mais que je suis coupé de Dieu, je suis mort. Mais quelque part, si je quitte le monde, mais je suis relié à Dieu, je suis vivant. Donc, les vivants et les morts ne sont absolument pas ce que l'on imagine. Et c'est ce qui permet de comprendre la résurrection lorsqu'il est dit que le Christ, par la mort, a vaincu la mort. Sur les lieux mêmes où l'homme est coupé de Dieu, le Christ va couper cette coupure. Il va libérer les hommes de cet emprisonnement qu'est la séparation de Dieu. Il va se séparer de la séparation. Et la caractéristique de la mort du Christ sur la croix, c'est d'être une rupture avec tout ce qui fait que les hommes sont en état de rupture, en étant capable de tout traverser et de montrer que l'homme peut tout vivre, que la vie peut tout vivre et que la vie peut tout traverser. Et donc, il s'agit pas ici d'une exaltation de la mort, mais il s'agit d'une restauration du plus haut état de connaissance que l'homme puisse connaître. Lorsque Denis l'Aréopagite décrit l'ascension de l'âme vers la connaissance céleste, l'état suprême de la connaissance, c'est ce que les pères du désert appelaient la mort au monde, c'est l'état de rupture totale avec tout ce qui fait que l'homme est séparé de Dieu. C'est la connaissance de la plénitude totale. Là, nous sommes dans la vie. Et donc, quel est l'énorme problème que pose le transhumanisme? L'énorme problème, c'est que la manière dont il parle de la mort et de la divinité de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui ouvre les hommes sur la vie et la déification, mais c'est quelque chose qui enterre totalement celle-ci. C'est-à-dire que on va enfermer l'homme dans ce qui fait le plus de mal à l'homme, à savoir l'homme comme être infantile, ludique, qui joue avec tout pour pouvoir satisfaire ses caprices, et qui appelle vie éternelle le fait de pouvoir faire vivre éternellement le corps infantilisé d'un être totalement infantile. Et là, je crois que nous sommes donc dans un oubli terrible et une mystification totale. Donc il faut bien comprendre la chose suivante. Sur le fond, que l'homme ne connaisse plus la mort, c'est le fond de la vie chrétienne et c'est un but qui est totalement légitime. Que l'homme aspire à la divinité et puisse vivre comme le Christ la divino-humanité, ce n'est pas un but méprisable, Au contraire, c'est un but essentiel. Que l'homme ait soif de plénitude et qu'il ait un désir d'accomplir sa vie est totalement légitime. Mais attention à la manière dont on peut le faire. Si on précipite les choses et si on ne pense pas les choses, on risque d'aboutir à une véritable catastrophe et au contraire du résultat souhaité, c'est-à-dire enfermer l'homme dans un monde qui est le monde de la mort et priver l'homme totalement de sa source divine. Alors pour ça, il faut qu'il y ait une mutation profonde du cœur de l'homme. La mutation profonde du cœur de l'homme, c'est ce qui permet de passer de la technique au poète et du poète au saint. La technique est un moment de l'existence humaine où l'homme prend possession de son environnement et s'en sert à son profit. Mais c'est une position tyrannique dans laquelle il s'agit d'asservir le monde pour le faire servir à ses propres intérêts. Ça ne peut pas être la philosophie de l'homme et encore moins la théologie. La philosophie de l'homme commence quand celui-ci dépasse ce moment qui est le moment technique pour aller vers le moment poétique. Qu'est-ce que c'est que le moment poétique? C'est le moment où l'homme n'est plus dans une position de tyran à l'égard de ce qui existe, mais dans une position qui est une position d'écoute, de résonance intime entre lui et le monde qu'il y a autour de lui, entre lui et les autres hommes, entre lui et Dieu. C'est le moment où l'homme s'ouvre au logos, au verbe, et là il découvre une existence absolument prodigieuse dans laquelle il ne s'agit pas d'être un tyran pour vivre d'une manière royale. Et puis ensuite, il y a le passage du poète à la sainteté et, je dirais, à ce que j'appelle la situation du serviteur qui libère totalement les hommes de l'esclavage. La caractéristique du saint, c'est d'être devenu totalement transparent à la vie divine et de permettre, comme dans les icônes, à la lumière divine de s'exprimer à l'intérieur de lui-même. Et là, c'est la manière de réunir tous les aspects de l'existence, matériel, personnel et transcendant, cosmique, anthropologique et théologique. Et là, on est dans la notion même de plénitude. Alors, dans cette vision des choses, la caractéristique du saint, c'est d'être dans la position royale, c'est-à-dire de servir. Qu'est-ce que c'est que de servir? C'est très bien exprimé par les grands créateurs de ce monde. Les grands créateurs de ce monde, à un moment, servent la musique, servent la médecine. C'est-à-dire, ils la font avancer, ils la font progresser. Ils deviennent les véritables hommes de progrès et de révélation qu'il y a dans le monde. Donc, le stade le plus inouï qui peut exister dans l'existence humaine, c'est le stade du serviteur et de la sainteté, où à un moment, il est donné à un homme de pouvoir, entre guillemets, que ce soit bien, quelque part, faire progresser Dieu. C'est-à-dire, grâce à lui, la révélation se montre dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire.
Bertrand Vergely, un très grand merci. Malheureusement, on est obligé d'arrêter là. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « La tentation de l'homme-Dieu ». Édition Le Passeur en 2015. Et puis, évidemment, nous espérons vous retrouver bientôt. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis, chargé de réalisation Anne Pérez, prise de son Pierre Henry. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.